Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, vous connaissez l'image du chemin de crête qui surplombe deux ravins et où il faut éviter tout pas de travers, à droite comme à gauche, si l'on veut éviter la catastrophe. Et c'est souvent ainsi que l'on représente la vie chrétienne ou la vertu, un sommet entre deux précipices. Mais c'est aussi parfois et par conséquence la situation du prédicateur qui doit vous encourager à la vertu sans risquer de vous pousser par maladresse d'un côté ou de l'autre. Et la situation est d'autant plus délicate que vous êtes tous différents. Certains parmi vous sont sans doute parfois portés au découragement et peut-être même dans certains cas extrêmes au désespoir. Un sermon sur la confiance en Dieu leur sera sans doute plus profitable qu'un sermon effrayant sur l'enfer. D'autres, pourtant, trop facilement rassurés, auraient grandement besoin d'être un peu secoués. De même, certains ont besoin d'être mis en garde contre la paresse, tandis que d'autres doivent plutôt éviter l'activisme, et ainsi de suite. Eh bien, mes frères, il en était de même chez les premiers chrétiens, et notamment chez les Corinthiens, à qui saint Paul s'adresse dans le passage que nous venons d'entendre. D'un côté, saint Paul veut faire comprendre que l'homme ne peut se sauver lui-même. Nous avons besoin d'un sauveur, notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous transmet le salut par ses sacrements et particulièrement par le baptême et l'Eucharistie. Mais pourtant, l'apôtre ne veut pas laisser imaginer que ces sacrements nous dispenseraient de tout effort et qu'ils nous sauveraient de façon magique, indépendamment de notre comportement. Ils sont efficaces, ils sont salutaires, ils sont nécessaires, mais ils ne font pas tout, et en particulier, ils ne suppriment pas le combat moral contre nos mauvaises tendances ou contre les tentations. Et pour bien nous faire saisir notre situation, saint Paul nous compare aux Hébreux dans le désert. Grâce à l'intervention de Moïse, les Hébreux ont été libérés de l'esclavage de Pharaon en Égypte. Ils ont traversé la mer Rouge et ils ont, dans le désert, été nourris et abreuvés de façon miraculeuse. Nourris par la manne qui tombait du ciel et abreuvés par une source jaillie du rocher lorsque Moïse le frappe de son bâton. Et saint Paul insiste. Ils ont tous traversé la mer Rouge. Ils ont tous été nourris de la manne. Ils ont tous été abreuvés de l'eau du rocher. Et pourtant, continue-t-il, ce n'est pas en la plupart d'entre eux que Dieu mit sa complaisance. Ce passage n'est pas dans le morceau d'épître qui vient d'être lu, mais nous l'avons entendu il y a quelques mois pour nous préparer au carême, le dimanche de la Septuagésime. Vous pourrez éventuellement le relire pour bien faire le lien, car cette épître de la Septuagésime précède immédiatement le passage qui a été lu aujourd'hui. Oui, nous dit saint Paul, en traversant la mer Rouge, les Hébreux ont tous reçu la figure du baptême. En se nourrissant de la manne, ils ont tous reçu la figure de l'Eucharistie. Et pourtant, quel mauvais usage ils en ont fait. Appuyé sur les récits de l'Ancien Testament, saint Paul nous donne cinq exemples de ces révoltes des Hébreux que Dieu avait tirés d'Égypte pour les mener dans la terre promise et qui, pourtant, n'atteindront pas la terre promise. Certains ont péché par convoitise en désirant le mal. D'autres sont tombés directement dans l'idolâtrie. C'est l'épisode du veau d'or que saint Paul évoque en parlant des Hébreux qui s'assoient pour manger et se divertir, et cela va se terminer par la scène d'adoration du veau d'or. D'autres sont tombés dans la fornication avec les femmes du pays de Moab, qui les ont ensuite entraînés, eux aussi, dans l'idolâtrie et dans les abominations du culte de Béel-Fégor. D'autres se sont révoltés contre Moïse et ont même entrepris de revenir en Égypte. D'autres, enfin, sans manifester de façon si claire leur révolte, passaient leur temps à murmurer. Et si ces tentations ont frappé les Hébreux, elles menacent aussi les chrétiens. Car, nous dit saint Paul, tout cela leur arrivait avec une valeur figurative. Tout cela a été écrit pour notre instruction à nous autres qui avons pénétré dans la fin des temps. Et nous avons ici au passage, mes frères, un principe très important sur les rapports entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Saint Paul n'y insiste pas parce que ça n'est pas l'essentiel de son propos, mais on peut remarquer que sur ce point également, il y a deux erreurs contraires et des erreurs qui existent encore même parmi les chrétiens d'aujourd'hui. Depuis Vatican II, vous trouvez de plus en plus de catholiques, même des prêtres, des évêques, voire des papes, qui estiment que les Juifs n'ont pas besoin de croire à Jésus-Christ pour être sauvés, vu qu'ils bénéficient déjà de l'Ancien Testament. Certains protestants, surtout aux États-Unis, vont encore plus loin et semblent à peu près mettre le Nouveau Testament au service de l'Ancien, comme si celui-ci était toujours pleinement en vigueur. En particulier, ils invoquent la Bible pour s'investir à fond dans le soutien à l'État d'Israël, comme si Jésus n'avait pas expliqué dans l'évangile qu'on vient d'entendre les raisons de la destruction de Jérusalem en l'an 70. Il est évident que cette attitude ferait bondir d'indignation saint Paul. Il aime ses frères juifs, bien sûr, mais c'est justement pour cela, parce qu'il les aime, qu'il veut leur faire découvrir le Sauveur, le Messie, Jésus-Christ. Et malgré leur refus, il a une bonne confiance qu'ils finiront, avant la fin du monde, par se tourner en masse vers lui, comme il l'enseigne dans son épître aux Romains. Mais face à cette erreur, qui donne trop d'importance à l'Ancien Testament, trop d'importance relative, comme si maintenant le Nouveau Testament n'avait pas pris la première place, il y a une autre erreur de ceux qui veulent complètement éliminer l'Ancien Testament. C'est une erreur qu'on trouvait déjà dans l'Antiquité, un hérétique appelé Marcion, et on trouve ces tendances chez certains catholiques qui estiment que nous n'avons plus du tout besoin de l'Ancien Testament, puisque Jésus est venu, nous avons le Nouveau Testament. Eh bien non, c'est encore une erreur. Et saint Paul explique que tout ce qui a été écrit dans l'Ancien Testament nous est utile pour notre instruction parce que cela a une valeur figurative. Et tout ce qui s'est passé pour les Hébreux, en particulier dans le désert, entre la délivrance d'Égypte et l'arrivée dans la terre promise, tout cela est une image du combat que nous devons mener dans notre vie chrétienne entre le baptême et le ciel. Cela est bien expliqué par les pères de l'Église ou bien par des auteurs inspirés des pères de l'Église, comme Don de Montléon, par exemple, dans son cours, dans ses ouvrages d'Histoire sainte. Et donc, si nous n'avions pas ces références à l'Ancien Testament, nous comprendrions mal le Nouveau Testament. Nous avons besoin de toute cette préparation, cette pédagogie divine qui a été mise en place par Dieu lui-même pour préparer la venue du Messie. Nous avons besoin de la connaître et nous avons besoin de nous y insérer pour bien comprendre l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est tout cela qui est contenu dans ce petit principe qu'énonce saint Paul. Tout cela leur arrivait avec une valeur figurative et a été écrit pour notre instruction, à nous autres qui sommes maintenant arrivés à la fin des temps, puisque la venue du Messie nous fait rentrer dans l'époque dernière de la vie du monde, l'époque du salut. Comme les Hébreux, donc, nous ne devons pas estimer que nous sommes sauvés d'avance, puisque nous sommes passés par le baptême et que nous avons la Sainte Eucharistie. Saint Paul nous donne l'avertissement que celui qui se croit solide prenne garde de tomber. Celui qui se tient debout, qui state, qu'il prenne garde de tomber. Ça n'est pas parce que jusqu'ici nous sommes tenus debout qu'il n'y aura pas des épreuves, peut-être plus graves, qui peuvent mettre notre salut en danger. Et pourquoi ? Parce qu'il n'y a au monde qu'une seule réalité qui soit parfaitement stable, qui se tienne parfaitement, c'est tout simplement Dieu. Oui, Dieu, lui, state, Dieu se tient, Dieu est l'être dans la permanence parfaite de l'être, et c'est à lui que nous devons recourir. Car saint Paul ne veut pas seulement nous faire peur. Il veut nous mettre en garde, mais en même temps, il sait que vivre dans une inquiétude trop forte n'est pas bon non plus. Donc, il nous dit « Attention, sachez que la tentation peut venir. » Et en même temps, il nous dit « Sachez aussi que la tentation vous sera mesurée parce que Dieu vous aime. Il permet cette tentation pour votre bien. » Donc, Dieu vous protège d'une double manière. D'une part, premièrement, il va permettre que la tentation vous soit proportionnée, que l'épreuve ne dépasse pas vos forces humaines. Et d'autre part, il va l'accompagner d'un secours. Il va mettre à votre disposition un secours qui vous permettra de la dominer. Mais cette aide, ce secours, n'est pas automatique. Il faut savoir le demander à Dieu, et c'est justement une des raisons d'être de la tentation, c'est de nous forcer à nous tourner vers Dieu, nous forcer à recourir à lui pour que nous nous rendions compte, et c'est ça le point le plus important de notre attitude envers Dieu, nous rendre compte que nous dépendons totalement de lui, dans notre être comme dans notre action, nous ne pouvons rien faire par nous-mêmes. Et parce que, justement, très souvent, nous avons tendance à l'oublier, nous avons besoin de ces épreuves, de ces tentations qui vont nous forcer à crier vers lui. Profitons donc de cette messe et de la communion pour nous remettre dans cette double attitude qui nous est énoncée, qui nous est enseignée par saint Paul, attitude d'une part de méfiance envers nous-mêmes, attitude de prudence, savoir je ne suis pas à l'abri de la tentation, je ne suis pas à l'abri de la chute, mais attitude en même temps de confiance en Dieu et de confiance filiale qui se manifeste par la prière en sachant « Mais mon Dieu, si je sais me tourner vers vous, si je sais vous implorer, vous ne m'abandonnerez pas et toutes les épreuves, toutes les tentations tourneront à mon plus grand bien. » Donc, mettons-nous dans cette double attitude avec l'aide de la Sainte Vierge. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.